Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Esperanza depuis ce matin. On vous parle des concerts, on vous parle de plein de choses, de la thématique du festival. Et là, on a avec nous Seydou. Ou, je ne sais pas comment on prononce.
Saïdou, ça dépend l'accent.
Saïdou. Ouais. J'essaye.
Les Russes diraient comme tu as prononcé là.
D'accord, ok.
C'est ton côté russe.
C'est mon côté russe. Ah ben écoute, j'ai encore envie de découvrir plein de facettes de moi-même. Là.
Ça c'est bien ça.
En parlant de facettes, alors ton nouveau projet City Watch Show, il y a plein de facettes. Une facette maghrébine, arabe, je ne sais pas comment. Tu sais, oriental, comment tu appellerais ça, cette facette?
C'est bien, un peu voilà, de mélanger tout ça.
Latino, Balkan.
Ouais.
Et un peu d'Europe aussi, un petit peu de France.
Bien sûr.
Ouais. Tout ça mélangé.
Du hip-hop aussi.
Et du hip-hop, ouais. Bien sûr. Ah, hip-hop, c'est américain, c'est ça que tu veux dire? Il y a le côté américain, afro-américain.
Le hip-hop, pour moi, c'est plus américain. Le hip-hop, ça traverse quand même aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est né aux États-Unis.
Ouais.
Mais je crois qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui, le hip-hop est américain. Le hip-hop, on y écoutait du hip-hop à Bagdad, il y a du hip-hop à Tokyo, il y a du hip-hop à Paris, à Marseille.
Est-ce qu'il existe encore une ville au monde où il n'y aurait pas un groupe de hip-hop? Ça m'étonnerait.
C'est un sujet hyper intéressant, je crois qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus, sur cet art populaire en réalité. On entend souvent les gens dans le déni en fait, tu vois, sur cette question-là, que le hip-hop est un art de rue, etc. Mais c'est un art populaire. C'est un art populaire qui traverse toutes les sociétés.
Ouais.
Toutes les tranches d'âge.
Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant que c'est.
Voire même les classes sociales.
C'est un art qui a essaimé partout. Alors, comment ça se fait? Toi, tu penses que cet art, c'est vraiment essaimé partout?
Moi, j'ai un avis.
Je serais content de l'entendre.
Parce que je crois qu'on est en carence. Le capitalisme nous met en carence de spontanéité. On est du coup avec dans une société comme cette consommation où tout est réglé au millimètre, à la couleur, à l'odeur, etc. On est complètement paramétré. Il n'y a plus beaucoup de place pour l'instinctif, la spontanéité. Ouais. Et en réalité, l'être humain, il y a besoin de ça. Il y a besoin de cette dimension comme ça, instinct, laisser exprimer une colère, etc. Je dis pas qu'on est des singes. Je dis pas qu'on est, tu vois, parce qu'attention, il y a aussi des discours méprisants sur le fait que quand tu fais du hip-hop des quartiers, il y a le côté instinctif, etc. Mais ce côté instinctif, c'est le plus humain. Et du coup, ce hip-hop, c'est pour ça qu'il s'est propagé. Parce qu'en réalité, ça devient pour moi, aujourd'hui, de la culture sincère et juste. Et comme il y en a très peu en réalité, pourquoi je dis elle est juste? C'est la culture des cages d'escalier, la culture des gens du peuple, la culture des opprimés, la culture des immigrés, la culture des exilés, la culture des mecs des quartiers, etc. C'est le hip-hop. Et il y a un truc de brut et juste et sincère. Et les choses sincères, ça résonne partout.
Ouais.
Et parce que c'est sincère, ça fonctionne. Et le hip-hop, c'est vraiment la culture populaire qui fonctionne dans le monde entier, qui plaît aux gens dans le monde entier.
C'est son
côté spontané, sincère, comme ça. Etc. C'est mon avis. Un jour, j'écrirai un livre là-dessus.
Non, mais tu penses que le hip-hop, il est toujours sincère? Parce qu'il y a quand même beaucoup de baratins, il y a une espèce de cirque, il y a tout un truc. Tu vois, l'ego trip et tout, c'est quand même. C'est un peu gonflé comme ça.
Ouais, mais tu vois, il y a des signes de reconnaissance, tu vois. L'ego trip, tu sais, moi, je pense que l'opprimé a le droit d'être égocentrique. L'opprimé, je pense même que. Il y a un grand penseur que j'aime beaucoup, un intellectuel qui s'appelle Sadri Khayari, qui est un Tunisien, qui a dit un jour. La modestie de l'opprimé est contre-révolutionnaire. En gros, l'arrogance du peuple, l'arrogance de l'opprimé, l'arrogance de l'Indien, du Mapuche, du Palestinien. Oui, il lève le menton. Oui, il se met debout sur les. Il se met comme ça, debout, il n'y a pas envie de ragenoux. Il est fier de ce qu'il est. Il est arrogant parce qu'il. Et parce que c'est mon moteur, c'est ma lutte, aussi ma survie. Moi, cette arrogance-là, elle me plaît. Et l'ego trip du rap, c'est ça?
D'accord.
Ça, c'est cette arrogance-là. Parce que des fois, on dit, ouais, le rap, c'est ego trip, ça se la raconte, etc. Ouais, ils ont raison de se la raconter.
Okay.
Parce que quand le flic, il te regarde mal, quand tu vas chercher du boulot, on te dit non, on te regarde mal. Quand tu vas à un appartement, on te regarde mal. Ouais, et ben, t'as envie d'être arrogant. T'as envie d'être arrogant. Et c'est une arrogance pour moi de survie.
Ouais.
Mais ça
inclut parfois, alors je vais faire l'avocat du diable, mais ça inclut parfois aussi un certain machisme, une espèce de mépris.
Alors là, si on parle là-dessus, franchement.
Ah, mais non, mais en fait, on parle là-dessus.
Non, mais attends, le machisme, il est partout. Il est, et voilà. Et je trouve que ça, ce que tu viens de dire là, tu vois, c'est aussi relayer des discours dominants. Parce que le patchisme, il est partout. Il est. Demande. J'ai vu plein de trucs, des gens qui ont été sondés dans des réseaux bourgeois, classe moyenne, qui se plaignent du sexisme, du machisme. En tant qu'à l'Assemblée, les ministres qui te disent qu'ils peuvent pas venir en mini-jupe. Ah, pas venir en mini-jupe tu vois, parce que c'est. DSK, c'est pas un rappeur, DSK. Il y a, comment il s'appelle là, Luc Besson. C'est pas un rappeur. Tous les sadiques là qui sont députés, etc., qui ont des problèmes de justice là parce que c'est des obsédés sexuels.
Bien sûr.
Des rappeurs, les mecs.
Bien sûr.
Et du coup, voilà. Évidemment qu'aujourd'hui on vit dans une société, le patriarcat, ça traverse toutes les sociétés de notre monde entier. Évidemment que ça va toucher le rap aussi. Pourquoi ça va pas. Après, j'ai jamais dit que le rap était l'endroit le plus sain, le plus noble. Tu vois, j'ai jamais dit ça. Attention. Mais j'ai pas envie qu'on soit dans le déni aussi sur le fait que le rap soit pas, tu vois, soit
exceptionnellement macho,
soit un bastion machiste, sexy, etc.
C'est un révélateur.
Ce qui serait faux.
Ouais, en fait, je t'en parle parce que je sais pas si t'as un petit peu lu ce qui se passe ces années à Esperanza. La thématique de tous les débats, c'est l'égalité homme-femme. C'est, voilà, donc, voilà, toi, je t'en parle et pour avoir ton avis, et voilà, ton avis est intéressant par rapport à.
Bon, après, moi, des fois, je prends le micro comme ça, on m'invite, je refuse plein d'interviews parce que à chaque fois que j'écoute des artistes qui font des interviews, je les trouve nuls. Ouais. Tu sais, et je me dis, putain, c'est-à-dire que moi, quand je fais une interview, il y a des gens qui me disent, putain, il est nul. Je veux pas envie d'être dans le crew des artistes nuls en interview. Alors c'est pour ça que je refuse.
Je vais essayer de.
À chaque fois que je vois les autres artistes, j'ai dit, c'est des nazes. Et je me dis, putain, ça veut dire que moi, quand je suis au micro, il y a des gens qui disent, putain, c'est naze. Et du coup, pour éviter ça. Déjà, je fais peu d'interviews. Et après, vous m'emmenez sur des discussions où il va falloir être un peu de rigueur. Parce que, quand même, on est sur des conversations qui sont un peu politiques. J'ai l'impression que je fais le show.
Les paroles sont un peu politiques aussi.
Ouais, et du coup, quand on débat, il faut de la rigueur. On peut pas dire n'importe quoi.
Ben, bien sûr. Ouais.
Et donc, du coup, vous allez m'emmener sur un. Non, mais moi, je veux bien.
T'as envie de te lâcher, mais pas trop.
Mais non,
trop,
c'est
quoi.
Pas ça. On a que 20 minutes. Ouais. Comment on veut être rigoureux en 20 minutes?
Tu veux qu'on prenne 2 heures?
Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Pas le choix. Bon, allez, c'est parti. On a deux heures. Auditeurs, attention.
Alors,
papier, stylo, on a 2 heures.
Moi, je t'avoue qu'au départ, je te connaissais pas. Apparemment, tu as fait partie d'un groupe qui s'appelait Ministère des Affaires Populaires. Et tu es le fils d'un paysan algérien immigré. C'est ce qui est marqué plus ou moins.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais pas vraiment, je voulais dire. Pas vraiment. Pas du tout.
Tu n'es pas vraiment le fils ou il n'était pas vraiment paysan algérien immigré?
Non, mais les ministères des Affaires Populaires, on était deux. Déjà.
D'accord.
Ouais. Et on était tous les deux fils, ou surtout petits-fils, parce qu'on est quand même deuxième génération. Nos parents sont arrivés petits, et dans les bagages de nos grands-parents, qui sont venus travailler dans les mines de charbon du côté de Valenciennes et les usines de textile du côté de Roubaix.
D'accord.
Et à l'époque,
le nord, quoi. Le nord.
Ouais, après, le nord de la France. Après l'indépendance de l'Algérie.
Ouais.
Où la France avait besoin aussi de main d'œuvre parce qu'on était en plein boom textile, il y avait le charbon, etc. Il fallait absolument ramener des immigrés pour les tâches ingrates.
En Belgique, c'est pareil avec les Marocains.
Hein. Ouais, je sais. Et donc, il fallait amener les immigrés. Donc, ils sont venus travailler dans les mines et dans les usines. Voilà. Et donc, nous, on est cette troisième génération. Nos parents sont arrivés petits. Hein. Et bon, c'est vrai qu'on est nous, on est moi je suis du côté de mon père, on était de culture terrienne, c'est-à-dire que plutôt paysanne.
Ouais.
Du côté de ma mère, culture pauvre.
Okay.
C'était la colonisation, ils survivaient, ils étaient pauvres, ils étaient ni paysans ni rien. En fait, ils faisaient les boulots qu'ils pouvaient en Algérie dans les années 60, un peu difficilement. Et mon grand-père est venu pour travailler, ils sont venus seuls, hein. Tu sais, les exilés, comme on l'entend dans les chansons, dans les films, ils viennent d'abord seuls, ils travaillent, ils passent des années ici, loin de leur famille. Hein.
Ouais.
Loin de leur famille, il faut se rendre compte qu'ils ont vécu des choses incroyables. D'où notre soutien, nous aussi, depuis des années, sur notre soutien aux causes, enfin, en tout cas, les sans-papiers qui luttent pour leurs droits, les exilés qui luttent pour leurs droits, on a toujours soutenu parce que aussi nous on est enfants d'exilés, on nous a transmis cette cette douleur, cette tristesse, voilà. Donc nous, on se sent très impliqué sur ces questions-là aussi.
D'accord. Ouais. En parlant des cultures différentes, donc dans votre musique et déjà dans les paroles, vous mélangez plusieurs cultures, hein, puisque tu travailles avec. Alors c'était un Chilien. Alors le nouveau, il est Chilien aussi.
Le projet est franco-algéro-chilien avec tout ça.
Hein, ah puis, ouais.
Ouais. C'est sûr, on mélange. Bon, après, on mélange pas des pays en vrai. On mélange des identités individuelles. Enfin,
ouais, bien sûr, Ouais, ouais.
Tu vois, il y a personne qui revendique être d'un pays. On n'est pas pas la Coupe du Monde. Mais c'est sûr que chacun ramène un peu sa culture, qu'elle soit artistique, qu'elle soit culturelle, politique. Tu vois.
Et donc, penses que, entre autres, c'est parce que tous les combats, toutes les luttes, ça peut être transversal.
Carrément, ouais. Carrément. On est évidemment ça. Ouais. Ça, c'est ça. Tu sais, même avoir une lecture très marxiste, tu vois, sur les ouvriers, les travailleurs du monde, que les travailleurs du monde s'unissent pour défendre leurs droits, ouais. C'est quelque chose qui nous plaît. Après, il y a la dimension tiers-monde aussi, qui est importante, parce que c'est vrai que moi, je suis d'origine algérienne, l'autre chanteur est d'origine chilien, donc du coup, sur notre écriture, notre rapport au nord, notre rapport au sud, et prend beaucoup de place aussi dans notre réflexion, dans nos textes, dans nos chansons, sur les questions impérialistes, ouais. Les questions capitalistes, évidemment.
Ouais. Alors, j'ai lu que tu disais mondialisme, et c'est l'impérialisme, c'est le nouvel impérialisme caché.
J'ai dit ça, moi ?
Ouais.
Merde. Je suis capable de dire des trucs que je comprends même pas moi-même aujourd'hui. Des trucs comme ça.
T'as dit, alors l'impérialisme, c'est plus pervers parce que tout est fait, tout est un peu organisé, un peu beaucoup plus organisé qu'avant. Et donc on a quelque part pas d'interstice pour vraiment penser ça. Et donc c'est. Ouais. Tu es toujours d'accord avec ce que tu as dit
Ouais, pourquoi pas. Non, si je l'ai dit, c'est que après, j'en dis des conneries aussi, quand même.
C'est vrai.
Ouais, ça m'arrive.
D'accord.
Ça m'arrive.
D'accord. Ok. Tu te revendiques un peu des combats du peuple. Alors, il y a un petit problème avec le peuple en ce moment, c'est que le peuple, il vote extrême droite. Est-ce que tu as un petit truc à dire là-dessus? Alors je vais bien t'écouter parce que je viens de passer 15 jours avec quelqu'un qui est le papa d'une gamine qui est la copine de mon gamin. Et après 15 jours, il m'a dit qu'il votait extrême droite. Et donc ça m'a un peu pris. Et donc moi, je suis curieux d'entendre un petit peu toi, qu'est-ce que tu penses du peuple qui est un peu désemparé apparemment et qui vote extrême droite.
Et déjà, ça nous fait pas plaisir déjà.
Bah, j'imagine.
Et je crois que. On est moi ça m'étonne pas parce que tu vois les discours des magots d'extrême droite, il y a une intelligence d'extrême droite de communication qui est de parler aux masses populaires. Et aujourd'hui il y a une nouvelle extrême droite qui se définit anticapitaliste aussi, attention.
Ouais, ouais. Et ils se disent plus ou moins économiquement de gauche et culturellement de droite,
Culturellement raciste.
Ouais, voilà. Ouais, ouais.
En gros, anticapitalisme et raciste.
Ouais, ouais.
Et ça marche.
Ouais.
Ça marche parce que déjà, ça veut dire que la dimension anticapitaliste, elle fonctionne. Uh-huh. Mais il faut lui rajouter un petit truc un peu plus sexy qu'est le racisme, parce qu'on est aussi dans des sociétés qui ont eu cette. Enfin, tu vois, on a quand même appris aussi à chercher un bouc émissaire déjà à nos galères.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu vois, ça a toujours été le cas. Enfin, tu vois. Être le dernier en bas de l'échelle, on n'a pas envie d'être en bas de l'échelle. Et je trouve que l'extrême droite a plutôt sur cette rhétorique-là, elle plaît aux gens. C'est les responsables de votre misère, c'est les immigrés, c'est les Roms, c'est les Syriens qui arrivent, etc., qui traversent la Méditerranée. Et je crois que les gens, tu vois, y croient, ouais. Malheureusement. Mais ouais. Pourquoi ils y croient? Parce qu'en face, la com. Enfin, tu vois, la rhétorique de la gauche, elle est pourrie, elle est pas audible aussi. Je crois qu'à un moment, c'est bien de mettre tout le dos de l'extrême droite, mais ça veut dire aussi qu'en face, ça fait pas le poids.
Ouais.
Ça, intellectuellement, sur le terrain, je crois qu'on a une vieille gauche, même de l'extrême gauche, hein, qui est hyper à l'ancienne, qui sait pas parler au quartier, qui est déconnecté même de la réalité des quartiers populaires, bon, et qui fait du clientélisme. Moi, je suis né en France, hein, tu vois, j'ai grandi en France. pour connaître certaines villes. Tu vois, moi je suis de culture communiste, hein, qui ont participé quand même, qui ont fait du clientélisme, etc. Qui se sont mal débrouillés, qui se sont fait piquer leur ville. Il y a des gens super, hein, il y a des gens qui ont gardé leur ville depuis 30 ans, 40 ans, et qui font un bon travail, qui se sont fait piquer leur ville parce que finalement ça a eu ses limites. On a une paire d'exemples, hein, tu vois. Le communisme, il n'y en a que le nom, hein, tu vois, dans leur gestion, la manière dont ils gèrent leur ville. Bon, pour l'instant, l'extrême droite en France, elle prend quelques mairies et quelques cantons, enfin, quelques. Comment, je sais même plus comment ça s'appelle, les députés, là. Il y a quelques députés, ouais. Il y a quelques députés. C'est pas, ouais, encore, c'est pas encore un raz-de-marée comme dans certains pays. Mais
Marine Le Pen au premier tour quand même.
Ouais. Ouais, mais bon, c'était pas. Tout s'est fait dans un mouchoir de gauche. Mouchoir de poche. Tout s'est fait dans un mouchoir de poche. Ouais. Je pense que pour l'instant, l'extrême droite en France, elle est pas encore assez. Enfin, je pense pas que ça puisse. Tu vois, ça puisse exploser comme dans certains pays de l'Est ou même l'Italie. Pas encore. Je pense qu'il y a encore. Je pense qu'il y a encore une culture de gauche, de résistance. On n'est pas encore à ce niveau de, tu vois, de
frustration.
Non, mais de je sais pas, de comment dire. On n'est pas encore à ce niveau de. Ouais, c'est bien, de frustration pour aller voter extrême droite, ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr, ouais. Je pense pas. Je pense qu'il y a encore un peu de conscientisation, il y a encore un peu de réflexion politique, il y a encore des espaces où on peut discuter, échanger, il y a encore. Mais c'est risqué. Tu sais, quand, par exemple, le gouvernement socialiste, le gouvernement Macron, font de la répression, tapent des gens, empêchent des manifs, en fait, font une entrave à la liberté d'expression, une entrave à la, il y a une entrave au droit de manifester. Bah, il nique des espaces. Il nique des espaces d'expression, des espaces d'échange.
Ouais.
Et sans ces espaces d'échange, c'est compliqué de faire partager des idées.
Ouais.
Tu vois, parce que c'est là que ça se passe en réalité, c'est que les gens se rencontrent, quoi.
Ouais.
Et c'est compliqué de partager des idées. Et là, je trouve qu'il y a un danger. Là, il y a un danger. Ça veut dire que si on se croise plus, si on se voit plus, pour partager des idées, c'est compliqué. Et moi, je crois pas, j'y crois pas, je pense pas à la révolution via les réseaux sociaux. Je crois absolument pas. Moi, je pense que les choses, elles se font. Faut qu'on se voit, faut qu'on se parle, faut qu'on débatte, ouais, faut qu'on soit dans la rue, faut qu'on fasse des démonstrations de force, faut qu'on soit fier de nous, faut quelque chose de. Faut du réel, quoi.
Ouais.
Et moins il y a d'espace. Moins on se rencontre, moins on échange, et plus on est faible, quoi.
Ouais.
Ouais. C'est mon avis.
Ouais. Donc les réseaux sociaux, là, tu penses que c'est une arnaque aussi,
c'est. Non, j'ai jamais dit que c'est une arnaque.
Ok.
Non,
okay. Tu penses que
c'est pas avec ça qu'on fera la révolution. C'est pas avec ça qu'on changera le monde.
Pourtant, dans les révolutions au Maghreb, là, Tunisie.
Ouais, ça a été utile, ouais.
Ça a été. En tout cas, ça a servi de moyen de communication, de rassemblement.
Ouais, non, mais c'est sûr, ça a participé, mais c'est pas avec ça que tu. Tu sais, la Tunisie, c'est les rats de marée. Moi, je les ai vus dans la rue, surtout, hein, tu vois. En Égypte, c'est les gens dans la rue qui nous ont séduits, qui nous ont, tu vois,
ouais.
Les images à la télé, tout ça, c'était de voir des gens sur les places, occuper les rues, rentrer dans les palais, tout ça, c'est ça qui nous a fait chaud au cœur et qui a été incroyable. Les réseaux sociaux ont participé, mais c'est pas les réseaux sociaux que c'est pas les réseaux. Le mec, il s'est immolé, il s'est pas immolé sur Facebook, quoi. Tu vois, là, on est dans de la réalité, là, quand même, tu vois.
C'est vrai, ouais.
Moi, je crois qu'il faut qu'on puisse avoir des espaces, en tout cas, même des espaces culturels. Hein. Aujourd'hui, on a Esperanza. Je crois que. T'imagines si on n'avait pas ce genre de lieu, tu vois, d'endroit. D'événements, mais quel que soit le festival, hein, tu vois, où les gens puissent se rencontrer, etc.
Ouais. Est-ce que t'as pas un petit peu peur en venant ici au Esperanza, c'est quand même tu prêches des convaincus parce que ils arrivent tous, sont un peu altermondialistes.
Ouais, bah tant mieux, on a besoin de se faire du bien.
Ok.
On a besoin de se faire du bien, on a besoin de renforcer nos convictions.
Ok.
On a besoin de renforcer nos convictions tout le temps. Et de continuer à se voir et continuer à se toucher et continuer à se dire des trucs et on a besoin de se renforcer, c'est hyper important. Tes copains, t'as besoin de les revoir tous les jours pour continuer à discuter avec eux, pour se faire plaisir, pour boire un coup, etc. Tu renforces ton amitié à chaque fois que tu fais un truc avec un pote, quoi, tu vois.
Ouais.
Et ben pour moi c'est ça, pour moi les festivals ils servent à ça, les gens viennent avec leurs copains et tout. On a besoin d'espace où on se fait plaisir, tu sais. Par exemple, les premières mesures dans les dans les dictatures, quand il y a eu le fascisme qui arrive, que ce soit, je sais pas moi, que ce soit au Chili, ou en Argentine, ou en Espagne, etc. C'était qu'il n'y ait plus d'événements culturels.
Ouais.
Tu vois ? En tout cas, plus.
Plus
de ce genre, quoi. Tu
vois ? On essaie de ramener une culture d'espèce de patrimonial comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Qui est plus, plus de rock'n'roll en gros, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vois, et tu regardes les mairies en France, en tout cas, les mairies d'extrême droite, les premières mesures, c'est de fermer certaines salles, enlever les subventions des festivals, des salles de concert, pour qu'il n'y ait plus de culture.
Ça a été le cas en Flandre, ici, où depuis qu'il y a un parti qui n'est pas vraiment extrême droite, mais qui est vraiment pas loin. Certains festivals n'ont plus de subventions. Il y a une grosse salle qui passait de la musique du monde, les subventions coupées.
Mais enfin, ouais, c'est voilà, sûr, c'est sûr.
Il y a eu plein de trucs comme ça. Ouais.
Non, la culture reste une résistance au fascisme.
Ouais,
après,
ouais.
À nous d'en faire des choses bien.
Ouais.
À nous de programmer dans des festivals comme aujourd'hui des gens comme Gaël Faye aussi qui participent à un truc d'éducation populaire aussi avec des textes engagés. Tout ça, c'est important.
Ouais.
Moi, je suis du Watcho, je suis flatté d'être là et d'avoir des textes décoloniaux, etc. Je me dis que je participe à un truc, ouais, au milieu de moments où les gens ils se font plaisir aussi.
Ouais, bien
tu
sûr.
Vois, après qu'il y a des groupes light, tu vois, ok, c'est light. Ben, on a besoin de trucs light aussi.
D'accord.
Tu vois que je suis pas fan, tu vois,
ouais,
moi,
ouais.
Mais
ouais,
je crois
ouais.
que les gens en ont besoin. On a besoin de.
Tu es assez souple pour ça.
Ah, j'ai pas envie d'être copain avec eux, par exemple.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai pas envie de les écouter.
Ils sont peut-être très sympas.
Non,
hein.
Non, si j'avais des enfants, j'aurais pas envie qu'ils les écoutent non plus, tu vois. J'ai pas envie qu'ils s'abîment les oreilles avec ça. Mais c'est pas grave, on a besoin de trucs light aussi.
Alors,
parce qu'on a besoin de faire plaisir.
Des enfants, attends-toi quand même à avoir une oreille très souple.
Je sais, à ce qu'ils écoutent des trucs light. Mais. Je citerai pas les noms, mais il y a des gens, ils sont sympas. Hein, mais j'ai pas envie d'être copain avec eux, qu'est-ce que tu veux. Non, tu sais, pareil, surtout le sujet, le thème, en tout cas, d'Esperanza sur la question de la domination patriarcale, etc.
Ouais.
Il y avait quand même un dicton féministe qui me plaît beaucoup et qui peut s'occuper dans plein d'endroits, c'est on peut pas dissocier l'intime du politique. En gros, si politiquement on n'est pas synchro, on n'est pas proche, on peut pas être intime. Parce que on se retrouverait dans des incohérences. Et,
ouais.
Et moi, je suis totalement en adhésion avec ce genre de. Avec ce dicton.
Ouais,
et
ouais, ouais.
Donc voilà, c'était juste pour traduire. Question suivante.
Alors moi, je voulais savoir, tu viens de Lille, c'est ça?
Ouais, ouais.
Roubaix,
ouais, je suis né à Roubaix.
Ouais, ouais, ouais.
Et
tu viens, je sais pas, des quartiers, on appelle ça les quartiers. C'est
non,
un peu le nom.
Non, moi, je. Moi j'ai pas grandi en cité, je suis un plus jeune. Après mon père a déménagé et j'ai pas grandi en cité.
Ok.
Ouais.
Ok. Et comment tu.
Après
tu arrives à sentir le pouls.
Après attention,
ça,
les banlieues, c'est Paris, les banlieues. Là, parce que
ouais.
C'est vrai qu'on a tendance à penser que les banlieues, les quartiers, etc., tu vois, tout ressemble à Aulnay-sous-Bois. C'est pas que ça, hein, tu
ouais.
vois. Il y a aussi Roubaix, Tourcoing, par exemple. C'est pas des endroits remplis de
cités ghetto.
Ouais, comment on appelle ça, d'immeubles très hauts, là, tout ça.
Ouais, des tours.
Des tours. Il n'y a pas beaucoup de tours à Roubaix. Il y en a
ouais.
quelques-unes, mais
ouais.
c'est pas une. Pourtant, il y a du monde.
Mmh.
C'est plein de petites maisonnettes
d'ouvriers, des anciens
ça,
quartiers ouvriers, ouais.
Quartiers ouvriers,
ouais.
Et des courées, etc.
Ouais.
Et donc, c'est des réalités différentes, mais il y a aussi beaucoup de choses en commun.
Ouais, ouais, ouais.
Avec les cités.
Un petit avis sur la religion musulmane ou aucun avis
Non, mais on peut avoir un avis sur la religion musulmane.
Ah, bah écoute, c'est pour le moins
D'où ça vient cette question-là
un débat. Dans les quartiers. Non, mais c'est un débat hein, ici,
ouais.
un peu partout. Est-ce que toi, tu as un avis? Est-ce que tu es religieux ou pas?
Mais pourquoi la religion musulmane en particulier? J'ai pas compris le cheminement,
parce que
le mouton là.
Tu es d'origine algérienne.
Ouais.
Il y a une majorité de musulmans en Algérie.
Et donc je vais avoir un avis sur la religion musulmane.
Alors, je te dis, tu as un avis ou pas? Si t'as pas d'avis, moi
Est-ce que je peux avoir un avis sur ta question?
Bien sûr. vas-y, je t'en prie.
Non, je crois que pour moi la question peut être problématique. On parle de culture et de là d'envisager un avis comme ça sur ce que je sur la religion musulmane, comme ça, juste parce qu'on parle de quartier.
Ouais, et, c'est vrai que peut-être il y a un lien qui est un petit peu rapide.
Ouais. Ouais, c'est un peu
c'est vrai.
Problématique.
Je voulais te poser la question. Et
alors, tu sais ce que tu vas dire
lien,
tu vas dire non. Tu vas dire c'est la prod dans l'oreillette. Ils m'ont dit place un truc sur l'islam, s'il te plaît. Mais non, Jean-Pierre, on parlera pas d'islam, wesh.
Tu veux pas en parler
Mais non, c'est en fait, si, moi je veux bien parler d'islam, mais c'est juste que je trouve que la question elle est passée au mauvais moment, au mauvais endroit.
Il y a un petit amalgame peut-être, et... effectivement. Tu as raison. Alors là, je m'excuse, hein. Je voulais en parler. Alors c'est peut-être pas le bon moment, mais je voulais en parler parce que c'est. On peut parler de toutes les religions parce qu'il y a des radicalismes dans toutes les religions, bien sûr. Hein.
Ah maintenant on parle radicalisme maintenant. En fait, je voulais parler de la radicalité non. du radicalisme.
c'est un sujet qui est en débat. Tu peux en rire tout ce que tu veux. Tu peux botter en touche et si tu fais, je ne t'en voudrais
alors,
pas.
Alors regarde ce qu'on va faire.
Je t'en voudrais pas.
Eh ben regarde ce qu'on va faire.
Dis-moi.
On va ton prénom. Rappelle-moi ton prénom.
Hubert.
Regarde ce qu'on va faire. On va reprendre à zéro. Rembobine. Vous êtes toujours sur Radio Esperanza. Ici c'est Hubert. Avec nous Saïd. Bon, on a parlé de plein de choses. Bon, t'as vu en ce moment la droite, les médias parlent beaucoup d'islam. Qu'est-ce que t'en penses, toi, que cette thématique revienne tout le temps dans les médias, etc. Trouve pas ça un petit peu. Voilà, on pourrait, par exemple, là, c'est moi qui réponds. Ouais, bah, je trouve que c'est vrai que c'est vachement instrumentalisé.
On l'engage, lui.
Et que, bon, après, ils font leur soupe avec ça, hein, tu vois, vu qu'on vit, tu vois, ils sortent sur la. Voilà, on vit dans une société qui a aussi des relents racistes, tout ça. C'est sûr que ça fait l'audimat. Voilà, bon, je crois qu'on s'est tout dit là-dessus. Oui, non, oui. Question suivante.
Ok. Ok, bah, si c'est comme ça que tu le vois, parfait, bah, ça me va.
Ouais, ça me va, bah, si tout le monde est content.
Alors, on écoute une petite chanson, là. Je sais pas combien de temps il nous reste dans les 20 minutes qu'on s'était... C'est fini.
On y est.
C'est fini. Bah écoute, merci.
Je t'en prie. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Longue vie au Festival Esperanza.
Ouais.
En plus, un festival qui met du sens. Et nous, on est contents d'y être, contents d'être invités, toujours flattés et contents d'être en Belgique surtout. Même si vous avez perdu la Coupe du Monde, et si on l'a perdu, parce que nous on est un peu belge, hein, on a grandi à la frontière, hein, on est, tu sais, notre cœur balance un petit peu, on est grandi à Roubaix, on mangeait nos frites à Moucron, tout ça, tu vois.
D'accord. Ok, bah écoute, merci, et je te rends l'appareil, longue vie à ton projet, et
au plaisir,
et à ta lutte, et à tes
et bon appétit,
tes démarrages en live. tu vas manger là?
Ouais, on joue. Ça passe en direct quelque part ou pas?
Pardon?
Non, ça passe pas en direct.
Ça
là.
Passe en direct en streaming dans le monde entier.
Ah super. Et ben voilà. On joue, pour ceux qui sont pas loin, on joue à minuit sur la scène Alpha. On s'appelle Sidi Wacho, www.sidiwacho.com, Instagram, Facebook et compagnie. Ça joue presque toute l'année, presque dans le monde entier. On vous dit à bientôt. On dit when I watch you chez nous. Salam alaikum. C'était Sidi Wacho.
Super.
Esperanza. Ciao.
Un grand merci. Ciao. Ciao. Salut.